Femme novatrice.
Femme novatrice.
Femme novatrice avec Sophie Nanin.
Bonjour et bienvenue à Femme novatrice pour écouter et partager avec vous les échos de leur challenge. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Audrey Marchal, directrice de la galerie In Arte Veritas Toulouse, mais surtout une nouvelle vie, vous allez voir, très artistique. Bonjour Audrey.
Bonjour Sophie, merci pour votre invitation.
Ah ben, grand plaisir. Alors, chers auditeurs, c'est une artiste lyrique soprano coloratour. Mais vous tous, comme moi, je pense que cantatrice vous parle énormément. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une personne qui est donc lancée depuis 2001 dans le monde du chant, reconnue. Une voix sensationnelle. Maintenant, par rapport à cela, elle va nous expliquer bien, évidemment, son parcours, car il n'est pas simple quand même dans un opéra, dans un théâtre comme le Capitole, ou même dans d'autres villes, parce que vous avez fait quand même un long parcours là-dessus, mais pas simple, j'imagine, de s'imposer dans cet univers, et surtout trouver sa place. Comment vous avez démarré ?
Déjà, la première question, ça a été d'imaginer ma place. Je n'avais aucune intention, ni même imagination, au départ, de devenir chanteuse lyrique. Alors, quand je dis intention, en réalité, je me rends compte que je me trompe un petit peu. Ça pouvait être un rêve, mais à aucun moment, j'imaginais que ça pouvait être quelque chose que l'on construisait. Pour moi, on naissait artiste lyrique à l'âge de 40 ans sur scène. Et donc, moi, je me destinais de manière beaucoup plus raisonnable au départ à des études plutôt scientifiques, hein, si je suis très transparente sur ma stratégie.
Ah, c'est pas mal.
Oui, je m'étais dit, j'étais très ambitieuse, je m'étais dit, alors il faudrait idéalement que je présente Normal Sup, que je sois professeur agrégé, parce que ce sera passionnant. Et en même temps, peut-être que je pourrais me mettre à mi-temps, ce qui me laissera du temps pour des activités artistiques, écrire et faire de la musique.
Vous l'avez quand même fait, Sciences
Po. Oui, mais ce n'était pas du tout prévu au départ. J'étais partie pour une prépa scientifique. J'étais entrée à Fermat précisément pour ça. Mais je suis entrée au conservatoire et même juste avant même d'apprendre à chanter, j'ai intégré un premier opéra pour enfants organisé par le Théâtre du Capitole.
Donc en 2001, ça ?
Oui, c'était en 2001, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Ah oui, donc ça a été la passion qui a pris place sur le raisonnable, on peut dire ça comme ça ?
Alors, plus ou moins, justement. j'ai mis les pieds dans cet univers. Je suis tombée amoureuse de l'univers du chant lyrique, de l'atmosphère, des spectacles et cette rigueur en même temps qui me convenait en termes d'un côté de soin apporté à tout ce que je fais et en même temps d'envie de liberté et surtout de vibration. J'aime vibrer, j'aime l'émotion. Donc je suis tombée là-dedans. Suite à cette première participation à un opéra pour enfants, j'ai intégré la maîtrise du Théâtre du Capitole, donc les chœurs d'enfants du Théâtre du Capitole. C'est à ce moment-là que des musiciens de l'orchestre et un chef d'orchestre m'avaient abordé pour me dire « Audrey, peut-être qu'il faudrait penser à chanter, tu sais, on peut devenir chanteur lyrique. » Ah bon ? Je vis ma terminale au lycée Fermat la même année et j'intègre le conservatoire en chant lyrique. Et au cours de l'année, ma professeure de chant, Anne Fondeville, me fait remarquer qu'il va falloir que je fasse un choix, que mon projet de partir en prépa n'est pas compatible avec le rythme du conservatoire.
Ah, c'est sévère comme choix.
Et donc elle me dit, c'est le conservatoire ou la prépa. Alors je réfléchis, parce qu'en plus j'avais 2 ans d'avance, donc je me disais, bon, on va m'arrêter, mon bac à 16 ans, bof. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai un petit peu honte, mais c'est vrai que ça s'est passé de cette manière. J'ai pris un compas, j'ai regardé ce qu'il y avait autour du conservatoire. Il y avait Sciences Po, je me suis dit, c'est merveilleux, c'est une manière de continuer mes études et en continuant à apprendre, sans me spécialiser. C'était un petit peu ce que j'avais derrière la tête. Je ne me spécialise pas, mais je continue à apprendre parce que je ne me voyais absolument pas ne faire aucune étude universitaire. Et j'ai mené de front le conservatoire en même temps que Sciences Po Toulouse.
D'accord. Donc, en fait, vous croyez complètement pour quelqu'un qui est rigoureux, qui est donc ambitieuse, bien sûr, mais sur le côté des piqué-piqué-collégramme, on va prendre dans les expressions enfantines. Et c'est un peu ce que vous avez fait pour le choix.
Je ne serais pas partie sur n'importe quoi. Bah le fait qu'il y ait Sciences Po à côté m'a permis d'envisager ce projet conjointement. D'accord. Mais si Sciences Po avait été trop éloigné du conservatoire, je ne l'aurais pas envisagé.
Donc c'était très très bien structuré et préparé, mais quand même un choix pas simple.
Ça a été un choix pas simple du tout, vous avez raison, parce que pour moi c'était inattendu. Je ne m'étais pas préparée à faire un tel choix si jeune. Pour moi, la spécialisation, elle allait se faire soit en école d'ingénieur, je me voyais me donner du temps un petit peu. Je me disais prépa scientifique, école, et puis ensuite...
Alors là, tout de suite, je vous lance une question. C'est, en tant que parent, comment ça a été vécu par vos parents? Parce que, bon, le lyrique, attention, je veux pas un peu casser les codes ou les stéréotypes. Voilà, le lyrique est plus respecté quelque part que si vous alliez dans vers la chanson française. Hein. Mais tout de même, c'est deux opposés. Comment ça a été vécu?
Vous avez vraiment raison de le souligner, parce que c'était une question qui a été abordée. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui me faisaient confiance, qui avaient une énorme confiance en moi et qui m'encourageaient à vivre mon rêve, tout en m'encourageant à faire, par sécurité néanmoins, et parce que c'était aussi ma demande, à m'assurer un bagage qui soit sérieux à côté. Un bagage qui me permette de rebondir. D'accord. Parce que, aussi sérieux que soit le chant lyrique, ça reste incertain parce que la concurrence est rude et rien n'est certain, comme en chaque chose, me direz-vous.
Non, tout à fait. Mais ça veut dire que, donc, du coup, vous êtes allé quand même sur les études supérieures, je parlais de Sciences Po tout à l'heure, en parallèle, vous avez donc progressé, évolué, mais c'est quand même un planning des deux côtés.
Danse.
Là, j'avoue que là, sur le côté Sciences Po, je ne l'ai pas fait moi-même, mais je suis avec des étudiants où parfois il y a justement des jurys et autres. Enfin, j'adore cette ambiance, mais c'est quand même danse dans leur programme. Tous les projets, bien évidemment, en plus c'est à long terme. Et vous, de votre côté, comment vous avez fait pour gérer le planning là?
D'autant que les horaires étaient très denses également côté conservatoire. Mais comme j'étais très déterminée, j'ai réussi à convaincre un petit peu tout le monde autour de moi. J'ai réussi à faire en sorte d'avoir mes horaires de TD qui s'imbriquaient en fonction des horaires du conservatoire. Donc j'avais une sorte d'emploi du temps aménagé. J'avais tout autant d'heures que tout le monde de chaque côté. Mais j'arrivais à imbriquer. J'ai joué à Tetris pendant mes études et je jonglais du conservatoire à la rue des Puits-Clos, je crois, ou la rue des Puits-Creusets. Donc, dans la journée, j'ai réussi à mener les deux de front, donc jusqu'à avoir mes deux diplômes. Mais là où j'étais vraiment heureuse de concilier les deux, où mon intuition finalement de tenter Sciences Po était, je pense, la bonne, c'était que pour ma troisième année, l'année de mobilité académique, j'ai pu faire créer une convention entre Sciences Po et le conservatoire, parce que les matières abordées au conservatoire, comme par exemple l'analyse musicale, l'italien, l'allemand, ça pouvait tout à fait s'intégrer dans un parcours cohérent avec Sciences Po.
Oui, et donc, lié au territoire, développement, pédagogie.
Exactement. Et j'ai réalisé mon mémoire ensuite du diplôme de Sciences Po Toulouse sur le jeu de pouvoir entre le metteur en scène, le chef d'orchestre et le soliste au cours de l'histoire et au fur et à mesure d'un opéra.
Ah oui, non, mais
donc
vous êtes...
tout s'est très bien imbriqué.
Alors, chers auditeurs, vous pouvez me dire aux auditeurs votre âge?
J'ai 37 ans.
Vous imaginez, 37 ans. Donc, elle nous raconte tout cela avec des mots et un enthousiasme. Je suis ravie que vous soyez là. Ça veut dire que donc ça, c'était il y a à peu près une quinzaine d'années.
20 ans. Quasiment, oui.
Donc, imaginez la jeunesse encore plus. Hein. En gros, bah, vous aviez 20 ans et vous avez réussi à mettre les deux en parallèle, à réussir à prendre la place. Parce que là, sur cela, maintenant, OK, 37 ans, mais n'empêche que quand il y a eu cette ouverture de jeu, maintenant, sur les autres villes, parce que vous avez après bougé et en plus à rencontrer quand même des personnes du monde de lyrique classique impressionnant, vous étiez quand même encore, justement, il y avait encore l'insouciance qui était là, même si vous étiez très rigoureuse. Comment vous avez réussi à cette vingtaine à vous imposer et à... Montez.
Alors, l'insouciance, je ne sais pas si c'est tout à fait exact me concernant. Je pense que plus j'avance, paradoxalement, plus j'autorise l'imprévu et la disponibilité. D'ailleurs, l'état de disponibilité, c'est un point important pour moi, la disponibilité émotionnelle, la disponibilité à l'autre. Mmh. Et je pense que je laissais très, très peu de place à l'imprévu. Et
les rencontres... c'est maintenant que vous l'avez beaucoup plus ?
Je pense, oui. Ah, beaucoup plus. Bon, je n'ai jamais été insouciante.
Non, mais je pensais que ça pouvait se mixer. D'accord, ah, on en parlera après, parce que souvent on inverse les choses. L'insouciance, justement, quand effectivement, voilà, on arrive à la quarantaine, on se dit, bon, bah, si on la garde, c'est bien, c'est de garder, vous avez parlé de liberté, de parler de justement de détermination, d'avoir cette aisance, de la gestion du stress, on en parlera tout à l'heure. Oui, pour moi, c'est effectivement plutôt dans l'autre sens, quand on a la vingtaine, qu'on a l'insouciance. Donc là, comment vous avez fait pour prendre place dans cette rigueur donc, qui vous était propre, et c'était pile poil ce qui vous correspondait, hein, si je puis dire ça de façon très spontanée. Comment vous avez fait dans cet univers musical pouvoir justement vous affirmer?
Donc comment prendre ma place, si je comprends bien, dans le monde de la musique classique? C'est quelque chose qui se fait progressivement. D'une part, par l'apprentissage musical, parce que même si j'avais quelques notions de musique lors de mon enfance, vous voyez, je suis une fille indigne, je reproche à mes parents de ne pas m'avoir invitée à être plus sérieuse dans mon apprentissage du piano, parce que je me dis, mais quel temps j'ai perdu ! J'ai donc d'abord appris la musique, et finalement très tard. Le chant lyrique, normalement, se commence à partir de 17 ans au plus tôt. Moi, j'ai eu une dérogation, je suis rentrée à 15 ans, mais néanmoins, ça fait... beaucoup, beaucoup de choses à ingurgiter en peu de temps. Et la manière dont on prend place, en réalité, c'est une conjonction de plusieurs facteurs. Ça va être, finalement, la fiabilité qui peut reposer sur nous. Ça paraît peut-être évident, mais je suis quelqu'un qui n'a qu'une parole, qui suis fiable. Et en termes d'apprentissage des partitions, vous voyez, d'être présent en temps, en heure, avec tous les acquis, ça, on pouvait compter sur moi. Il y a évidemment des notions de timbre. Ça, je pense avoir cette chance pour moi, en toute humilité, d'avoir un timbre qui est identifiable avec une tessiture, celle de donc, soprano coloratour, qui est en même temps une niche.
Ah et oui, qui n'est pas très courante quand même. Donc, c'est quand même courant. Un talent quand
donc,
même
on est plus rare, mais on a moins de rôles pour nous. Vous voyez, on n'est pas du tout la soprane à tout faire quand on est coloratour. Parce que j'ai une voix qui porte, mais qui est néanmoins plutôt légère. Elle est si je résume, elle est agile et légère, ma voix. J'avais vraiment ce capital aussi des aigus qui me démarquaient un petit peu.
Afin que l'auditeur comprenne bien, quand vous dites justement agile, avec quelle personne vous avez justement chanté et qui avait quelle voix? Pourquoi, vous voyez, l'auditeur s'y retrouve?
Je n'ai pas forcément chanté avec, mais en termes de tessiture, on serait sur Nathalie Dessé, l'Acmé, la Reine de la Nuit. Donc, ces notes un petit peu pyrotechniques, ce sont des cabrioles vocales. Donc ça, c'est ce que permet la voix de coloratour. Elle permet aussi de beaucoup s'épanouir dans le baroque. Et moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à chanter dans le répertoire baroque. Et nos propres appétences nous dirigent également. Il se trouve que donc, en découvrant le répertoire baroque, que je connaissais peu, en toute honnêteté, en démarrant le chant lyrique, j'ai réalisé qu'il me conférait beaucoup de liberté. C'est très proche du jazz, en réalité, le baroque, parce que souvent, sur une basse continue, quelque chose d'un petit peu répétitif, et sur une mélodie qui peut sembler simple, en réalité, on va pouvoir apporter des ornements, on va pouvoir varier, on va avoir une souplesse en termes de rythme, qui me convenait tout à fait. J'avais d'un côté le plaisir d'aller rechercher ce qui était le plus original, le plus beau, tout simplement, à proposer, et en même temps, la liberté donc de pouvoir le proposer et de pouvoir écrire. Même.
Et ça, c'était à la Lohengrin, c'était sur partie vraiment où... Parce que vous êtes aussi allé à Londres, enfin, vous êtes allé à différents endroits. Donc ça, à chaque fois, c'était en orchestre. Mais à un moment donné, vous étiez aussi en duo, vous étiez lead de toute façon par rapport à cela. Mais comment ça a été, cette évolution?
Alors, je n'ai pas eu de grande carrière internationale, mais j'ai eu la chance et l'honneur de chanter avec notamment des orchestres toulousains, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre Baroque, l'Orchestre Mozart, avec lesquels j'étais amenée à bouger. J'ai été engagée en récital, voilà, en effet, à Paris. J'ai eu les occasions, comme vous le disiez, de chanter à Londres dans des cadres originaux. J'ai également pu chanter, ça c'est un extrêmement beau souvenir, avec mon ensemble baroque que j'avais fondé, l'ensemble Carré de Cœur, où il y avait une harpe triple, un violoncelle baroque et un traverso. C'est la flûte traversière baroque. Où on a pu composer un programme dont je me félicitais qu'il soit aussi intéressant pour les néophytes que pour les professionnels confirmés. Donc j'aime cette manière d'estimer le public, de ne pas toujours lui servir ce qui est facile. Moi, d'une certaine manière, ce qui était facile, c'était, entre guillemets, de planter des aigus. C'est bon, ça suscite des applaudissements. Mais d'aller aussi au-delà de ça. Pardon, je heurte le micro. Le fait de pouvoir proposer des choses, souligner la beauté de certains frottements harmoniques, hein, d'aller parfois chercher des pièces un petit peu rares, qui, bien que parfois rares, soient en mesure d'émouvoir la personne qui n'a pas forcément un bagage musical.
Mais là, c'était donc quatre femmes, c'était créé en 2015.
Femmes et un homme.
Trois femmes et un homme. Oh, pardon, messieurs. Et donc, à ce niveau-là, en 2015, et ça a continué combien de temps? Ça existe encore ou non? Vous l'avez complètement arrêté?
Eh bien, on a arrêté puisque je n'ai plus le temps de chanter professionnellement. D'accord. C'est quelque chose que j'adorerais en soi pouvoir continuer. Mais en pratique, quand on me dit « Mais pourquoi tu ne continues pas des concerts de temps en temps en étant moins exigeante ?» Je ne peux pas, par respect pour mon public, chanter en ayant la sensation et même la certitude d'être à 50% de mes capacités. Si ça je propose quelque chose, je donne toujours le meilleur de moi-même.
J'essaie,
en tout cas.
Non, elle ne sait pas, elle le fait véritablement, ça c'est certain. Mais par rapport à ça, justement, sur le côté, vous dites, d'activité, donc vraiment dans la partie soprano, coloratour, c'est quoi? Pendant une vingtaine d'années, ça a été votre activité, 15 ans?
Comme j'ai commencé adolescente, mes premiers concerts professionnels, en effet, ont commencé lorsque j'avais 14-15 ans. Donc là, j'avais eu l'honneur de chanter en soliste sur la scène du Théâtre du Capitole à Toulouse.
Et ça, par exemple, soliste, justement, au Théâtre du Capitole, c'est combien d'heures de travail que ça nécessite tous ces moments? Parce que c'est clair qu'on est tous très attirés pour venir vous écouter. Le côté classique, quand même, il y a une magie. Enfin, ça, pour moi, ça l'est, mais je pense que pour nos auditeurs aussi. Mais combien d'heures de travail? Comment ça se
construit? Oui. Alors, c'est vrai qu'ensuite, j'ai donc essentiellement chanté ensuite en récital et en concert, mais c'est vrai que je pense maintenant sur toutes les scènes de Toulouse, puisqu'il y a eu le Zénith, la Saint-Pierre-des-Cuisines, la Halograin. Mais comment faire donc pour pouvoir se hisser à ce niveau et s'y maintenir? C'est effectivement un travail quotidien qui a la particularité d'être presque chronométré. Parce que un mauvais geste abîme les cordes. Donc, à la différence, je pense, de parfois certains musiciens qui vont travailler beaucoup dans la durée, quand on est chanteur, on a une sorte de capital que l'on doit utiliser avec un soin, une attention extrême. Le geste doit être aussi juste que possible dès qu'il est émis. Et il y a une particularité, c'est que pour les voix aiguës, donc comme la mienne, les voix de femmes vibrent forcément plus rapidement, les cordes vocales vibrent plus rapidement que les cordes des hommes. Elles ont tendance donc à plus se fatiguer, parce que imaginez que vous frottez votre main, même si c'est une caresse, à force vous allez finir par vous blesser. Donc, tout
qu'est-ce
temps
que ça
de
vous
travail,
impose, ouais. Qu'est-ce que ça vous impose?
Ça impose
vous,
un temps de repos. Ça impose donc un travail quotidien, comme des gammes, des assouplissements. Il faut le voir comme un assouplissement et aussi un entraînement de tout ce qui est diaphragme. Le souffle, la projection de la voix demande en réalité une forme physique très intense. On est très, très présent sur scène. C'est une générosité et ça fait peut-être partie de la magie du chant quand on le ressent. Je trouve qu'il n'y a rien à voir quand on écoute du chant et quand on assiste à un spectacle.
Ah, mais c'est bien pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui, pour que justement cette passion, enfin pour moi c'est un défi, là comme vous venez de le présenter sur le côté de la, on va parler tout à l'heure d'émotion, c'est comment justement vous arrivez à tenir et donc ce que ça vous impose par rapport à ça, c'est justement cette spécificité de bien comprendre, complètement comment vous opérez, justement, pour le continuer.
À la fois d'avoir les moyens techniques donc, qui se construisent jour après jour, de réaliser une performance parfaite ou presque, c'est ce que l'on cherche. On cherche une homogénéité du timbre dans toute la voix, ce qui n'est pas forcément le cas dans le jazz ou la chanson française, et ce sont des très beaux répertoires également. Mais on va même parfois chercher le défaut de la voix lorsque l'on chante d'autres répertoires. Non, dans l'opéra, on cherche une homogénéité, on cherche une santé de la voix, et c'est pour ça que ça nous fait tant de bien à écouter, sur tout l'ambitus de la voix, sur toute la tessiture. Il faut que ce soit parfait, et à la fois, il ne faut pas qu'on ressente le contrôle. Mm-hmm. Il faut que ce soit un abandon total,
un jaillissement. Ce que vous appelez la liberté tout à l'heure, si je suis étonnée que vous parliez de liberté, cet univers est très, rigoureux, contraint, et vous parlez de liberté. Donc en fait, la liberté, ça va être effectivement... Parce qu'on va être justement dans ce trigger, qu'il va y avoir cette liberté, cette émotion, et que sur scène, on ressent que voilà, vous vivez pleinement le compositeur, enfin en tout cas toute la partie partition dont vous parliez tout à l'heure, avec un orchestre, et que c'est voilà, une synergie, il y a une harmonie complète.
Absolument, on se laisse traverser. Moi j'ai la sensation qu'on n'est pas seulement un émetteur, qu'on n'est pas... seulement non plus un récepteur, ça je pense que vous me rejoindrez. Quand on est dans l'échange, on se nourrit tout autant de la personne en face que ce qu'on lui donne. Mais je nous conçois comme des transmetteurs. La musique nous précède, elle nous traverse, nous sommes des interprètes. Et même si parfois on a une partie de création, on est tout de même là pour servir un compositeur et pour faire vibrer un ensemble. La musique... C'est très beau lorsqu'elle est mélodique avec juste une ligne, mais je pense que la magie se crée essentiellement quand on commence à avoir deux sons, deux notes qui vibrent ensemble. Et ça peut être deux voix, deux instruments. D'ailleurs, une de mes lubies, j'allais dire, en tout cas un de mes plaisirs, c'était de m'insérer dans le son de l'instrument pour qu'au niveau du public, on ne sache pas trop à quel moment la voix a commencé. Vous voyez, de me faufiler dans le son des cordes, par exemple, ou d'un hautbois. Je trouve que ça crée des moments magiques. Et il m'est arrivé combien de fois de pleurer sur scène en chantant. Avec cette distance à trouver, parce que trop de pleurs, ça bloque la voix. Mais combien de fois mes larmes ont coulé.
Non, mais là, c'est pour ça que cette émotion me va bien et puis que là, vous puissiez effectivement la transmettre. Maintenant, j'imagine, est-ce que c'est le fait d'être maman qui a fait que vous avez arrêté le chant ? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ? Parce qu'il y a la vie de maman qui s'est lancée. Aujourd'hui, donc vous êtes directrice de galerie d'art, donc c'est autre chose, même si votre passion est toujours là et vous la continuez, bien mais sûr. Pas dans un cadre pro. Comment, là, ces deux vies, on va dire maintenant, comment vous opérez ?
Effectivement, il y a eu un déclic au moment où j'ai eu mes enfants. Étant fidèle à moi-même, je n'ai pas cessé de chanter quasiment jusqu'à l'accouchement et j'ai repris un mois après à chaque fois. Mais ce que je supportais avant, parce que d'une certaine manière, je ne vivais que pour moi, avec mon mari qui certes, comme il est toujours dans le soutien, il ne m'a jamais reproché le fait que je sois absente ou indisponible lors de mes répétitions, de mes week-ends. Mais le fait de devenir maman, tout ce que je supportais, donc le fait de vivre sous cloche, de ne jamais tomber malade, de ne pas fumer, ça ne me dérange pas, mais de fuir du moins même ceux qui fument, pas de cigarette, pas d'alcool, et ne pas tomber malade, ça finit par me mettre en situation d'inquiétude constante. Et donc j'ai chanté plusieurs années, jusqu'à l'an dernier, vous voyez le dernier concert que j'ai assuré à la Logrin, c'était l'an dernier. Mon fils avait 8 ans. Donc. Mais depuis quelques années, j'avais constaté que le plaisir que j'avais sur scène finissait par être rogné par le poids des sacrifices que cela incombait.
Donc ça veut dire que le côté épicurieux et maman a pris place, et que donc, à la limite, je comprends pleinement là-dessus, par rapport à ce que vous disiez d'exigence, on ne peut pas effectivement arriver à tout, on est obligé de faire des choix, comme un peu vous avez fait à la vingtaine.
Des choix douloureux.
Voilà, douloureux, mais en même temps pour vos enfants, ce qui est légitime.
Pour maintenant, mes enfants aujourd'hui, et pour moi-même, pour la satisfaction de donner toujours le meilleur de moi-même. Quand j'avais la sensation que j'étais contrainte sur scène par d'autres facteurs, je n'avais plus la sensation d'être en mesure d'offrir pleinement
la pleine qualité.
Le même abandon. Donc, utilisant justement mon levier, mon expérience à Sciences Po Toulouse et mon expérience de la scène, j'ai souhaité mettre à profit mon expérience pour accompagner les personnes dans la préparation de leur prise de parole en public, que ce soit en termes vocal.
Subtil, parce qu'il y a une logique. Non, mais il y a une logique. Ouais. De rigueur, alors c'est effectivement la technique vocale, la gestion du stress,
exactement.
Et donc la prise de parole en public. Mais là, au moins, il y a un sens, il y a une crédibilité qui est effectivement importante. D'ailleurs, sur Instagram, je pense que c'est là où on peut vous retrouver ou pas du tout.
J'étais plutôt présente sur LinkedIn à ce moment-là parce que je m'adresse en grande partie aux professionnels. Parce que c'est vrai, on sait que la voix, c'est la première chose que l'on sent faiblir quand on est en manque de confiance. Or, le chant, c'est typiquement ça. On a de l'émotion. On ressent du stress à être sur scène. Mais la voix ne faillit pas.
Donc là, vous, c'est votre partie. Maintenant,
exactement.
On arrive malheureusement à la fin. Directrice Galerie d'Art, en quelques mots, donc là, c'est In Arte Veritas, qui est donc à Toulouse. Pourquoi ? En quelques mots, malheureusement.
En quelques mots, étant à temps plein sur mes accompagnements donc, en coaching vocal sur la prise de parole en public, j'ai fait le constat que je me régalais à accompagner les gens parce que c'est un grand bonheur pour moi de me sentir utile et de voir les gens gagner en confiance et se révéler eux-mêmes, sans avoir besoin d'imiter qui que ce soit d'autre. Étant à temps plein sur cette activité, lorsque j'avais décidé donc de cesser les concerts, je me suis fait la remarque que l'art me manquait. L'art manquait dans ma vie. Dès que j'avais du temps libre, je le passais ou en galerie ou à écouter des conférences. Et je me suis donc rapprochée du dirigeant des galeries In Arte Veritas, Stéphane De Bost, en voulant lui proposer au départ d'amener mes clients peut-être à travailler l'expression orale et l'expression émotionnelle sur des tableaux plutôt que sur eux-mêmes, en tout cas sur des œuvres d'art. Et je pense que nos caractères ont bien fonctionné ensemble. Il a lui-même également un parcours assez atypique et je pense qu'il a perçu en moi ce souhait sincère et d'apprendre et de mener les personnes à comprendre l'art et à se rendre disponible émotionnellement pour vibrer face aux œuvres d'art. Et il m'a proposé la direction de la galerie In Arte Veritas Toulouse, que j'ai acceptée avec grand bonheur. Et j'y suis maintenant depuis 10 mois. C'est une très belle aventure.
Bah écoutez, chers auditeurs, vous voyez, j'ai même pas le final à faire. Vous avez Audrey Marcel qui vient de vous faire le final. En tout cas, super parcours. Je suis ravie de vous avoir eu avec nous. Mais en tout cas, si de côté passion, vous pouvez bien garder cela et transmettre à vos enfants, ce serait effectivement pas mal. Mais en tout cas, merci infiniment d'être venu.
Merci à vous, Sophie.
Avec plaisir. Chers auditeurs, à la semaine prochaine.